Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier numéro de votre émission dénommée Regard sur l'actualité sur Djeliba FM 105.fm, une émission qui décrypte les grands sujets qui façonnent notre société. À la présentation, Omar Kouita, la mise en onde est assurée par Boubacar B. Traoré, grand B pour les intimes. Eh bien, comme vous le savez, hein, du 16 au 18 juillet 2026, Bamako a accueilli la deuxième édition du Forum international de la diaspora, un rendez-vous majeur consacré aux contributions des Maliens établis à l'étranger au développement économique, social et institutionnel du pays. Quel enseignement tirer de cette rencontre? Quelle opportunité ouvre-t-elle? Les attentes de la diaspora ont-elles été attendues? Quels engagements ont été pris et quelles perspectives se dessinent désormais? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Asseiba Touré, président de la diaspora Mali Invest DMI, entrepreneur installé en France depuis plus de 25 ans et acteur engagé de la diaspora malienne. Monsieur Touré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je suis très ravi d'être sur votre plateau et bonjour à tous les auditeurs.
Alors voilà comment nous allons aborder cette émission au cours de l'émission. Nous parlerons dans un premier temps de la participation, de votre participation au forum. Ensuite, nous aborderons les enjeux de la diaspora et enfin la question des investissements et initiatives. Alors, nous l'avons dit, hein, vous avez pris part à cette rencontre, à ces assises, sinon à ce forum. Vous avez aussi pris part à la première édition. Alors, parlez-nous de votre participation. Quel regard global portez-vous sur cette rencontre?
Alors, merci beaucoup. Je porte un regard très positif sur cette deuxième édition du Forum international de la diaspora. C'était une rencontre utile qui a permis de rassembler les acteurs de la diaspora et des différents horizons autour d'un même objectif, c'est-à-dire réfléchir concrètement à la contribution de la diaspora au développement du Mali. J'ai surtout apprécié le niveau des échanges, la diversité des thèmes abordés et la volonté affichée de passer du discours à l'action.
Alors, on sait que vous êtes chef d'entreprise, mais aussi président de Diaspora Mali Invest. Dites-nous concrètement ou précisément, quel est le rôle de Mali Invest Diaspora que vous avez joué au cours de cette rencontre?
Alors, Diaspora Mali Invest, pour un rappel, c'est que Diaspora Mali Invest est une association qui a été créée à l'issue de la première édition du FID, du Forum international de la diaspora, et par l'initiative des experts qui ont participé à la première édition, qui ont constaté qu'il fallait une structure qui est dédiée uniquement et essentiellement au projet de la diaspora et à l'investissement. Pas d'autre chose, une structure apolitique qui va direct au but. Et c'est à l'issue de ça que Diaspora Mali Invest a été créée. Donc le rôle de Diaspora Mali Invest était de représenter la diaspora malienne à cette importante rencontre, de porter la voix des investisseurs, des entrepreneurs et des porteurs de projets. Nous avons participé aux échanges pour faire entendre les préoccupations de la diaspora, mais aussi pour montrer qu'elle souhaite s'organiser d'une manière plus structurée et plus utile au pays.
Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez participé au nom de Diaspora Mali Invest, mais quel était le message que vous devez passer?
Alors, nous avons porté un message simple. La diaspora est prête à contribuer davantage, mais elle a besoin d'un cadre clair, crédible et sécurisé pour investir. Nous avons aussi insister sur l'importance de la confiance, et de la transparence et de l'accompagnement institutionnel. Enfin, nous avons rappelé que la diaspora ne veut pas seulement envoyer de l'argent, mais elle veut participer à des projets durables et créateurs de valeur.
Alors, on sait que cette rencontre a réuni sur la toile, mais aussi en présentiel, plus de 1000 personnes venues de 45 pays du monde, parmi lesquels les investisseurs et autres Maliens qui viennent de partout au monde, comme je l'ai dit tantôt. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de cette rencontre?
Alors, ce qui m'a le plus marqué lors de cette rencontre, c'est la recherche des idées et la volonté réelle de nombreux participants de construire quelque chose de concret pour le Mali. J'ai aussi été sensible à la qualité de certains échanges entre autorités, experts, entrepreneurs et membres de la diaspora. Cela montre qu'un dialogue est possible à condition qu'il soit suivi d'actes. Et c'est le cas actuellement avec les autorités du ministère des Maliens de l'Extérieur qui ont mis tout ce qu'il faut, et non seulement à partir de la première édition et de cette édition, pour que les projets de la diaspora soient une réalité.
Alors, vous avez aussi pris part à la première édition, hein, comme je l'ai dit tantôt. Vous êtes ici cette année encore. Alors, si on regarde de près, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de cette rencontre?
Alors oui, cette deuxième édition, je trouve qu'elle est plus mature et plus orientée vers l'opérationnel. Alors, lors de la première, nous avons mis les bases, nous avons émis les souhaits de la diaspora. Et c'était vraiment une édition où que nous attendions, toute la diaspora attendait une rencontre au cours de laquelle les porteurs de projets puissent rencontrer les financiers et les infrastructures financières pour rendre ces projets une réalité. On sent davantage une volonté de structurer les discussions autour des projets d'investissement et de mécanismes concrets. Par rapport à la première édition, celle-ci me semble plus proche des réalités économiques et des attentes de la diaspora.
Alors justement, j'allais vous demander, quelle différence y a-t-il entre cette édition et l'édition précédente?
Alors, entre cette édition et l'édition précédente, il faut noter que la première édition, c'était une édition où on avait émis nos souhaits. On avait émis les souhaits, qu'est-ce qu'il fallait, quelles sont les conditions pour que la diaspora puisse contribuer effectivement au développement du Mali. Cette édition, est, comme je vous ai dit, elle est plus mature, elle est portée plus vers l'opérationnel. Il s'agit de transformer ces souhaits-là en réalité avec les outils qui sont là. Donc, nous avons pu rencontrer lors des différents panels les banquiers, les infrastructures institutionnelles de l'État et les opérateurs et des autorités pour les questions fiscales et les questions juridiques pour que ces projets de la diaspora puissent être transformés vraiment en réalité et avoir un impact réel sur l'économie du Mali.
Alors, nous allons aborder la deuxième séquence de cette émission. Pour ceux qui nous prennent en vol, sachez que nous sommes sur Djeliba FM 105.fm et que nous sommes dans l'émission Regard sur l'actualité présentée par Oumar Keïta. Aujourd'hui, je reçois Aseba Cissé Touré. Il est chef d'entreprise, mais aussi président de la Diaspora Invest. Il vient de la France. Au nom de la diaspora, il a participé au dialogue, sinon au forum international de la diaspora. Alors, en parlant des enjeux aujourd'hui, quelle place de la diaspora, quelle la diaspora occupe-t-elle dans le développement économique du Mali selon vous?
Alors, pour moi, la diaspora occupe une place stratégique. Elle constitue une source importante de devises pour le pays, mais aussi un vivier de compétences et les réseaux et des réseaux et d'expériences. Si elle est mieux organisée et mieux accompagnée, elle peut devenir un véritable moteur d'investissement, et d'innovation et de création d'emplois.
Alors, au-delà des transferts financiers, quelle autre forme de contribution la diaspora peut-elle apporter, selon vous?
La diaspora peut apporter beaucoup plus que des transferts financiers. Elle peut transférer des compétences, faciliter l'accès aux marchés internationaux, accompagner par le mentorat des jeunes entrepreneurs, soutenir la structuration des projets et jouer un rôle de passerelle entre le Mali et les pays d'accueil. Elle peut aussi contribuer à la modernisation des pratiques de gestion d'entreprise au Mali.
Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes chef d'entreprise, mais vous aussi, vous l'avez rappelé, vous représentez des Maliens de la diaspora qui veulent investir dans leur pays natal. Selon vous, quels sont les obstacles qui freinent davantage l'implication des Maliens de l'extérieur par rapport à ce domaine?
Alors, les obstacles, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, je vais citer les principaux. Puisque moi j'opérais dans le domaine économique de la diaspora pendant très très longtemps et je connais exactement les problèmes de la diaspora pour investir au Mali. Les principaux obstacles sont le manque de confiance d'abord, le manque de confiance des éléments de la diaspora pour investir au Mali parce que ils ont déjà fait des expériences qui n'ont pas donné ce qu'ils attendaient. Donc il y a aussi la lourdeur administrative et l'insuffisance de l'information fiable. Alors, le manque de garanties sur les investissements et parfois l'absence d'interlocuteurs clairement identifiés. Beaucoup de membres de la diaspora sont prêts à agir, mais ils veulent des procédures simples, des règles claires et des résultats visibles. Voilà.
Alors, vous l'avez dit, hein, ce frein, et il y a eu des. Je sais que nous avons tous été à ce forum, hein, nous savons qu'il y a eu des panels par rapport à cela. Oui. Alors, les autorités, même le ministre a animé un panel par rapport à cela, que ce soit des Maliens de l'extérieur ou encore de l'emploi. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a été dit concrètement pour faire face à cette situation?
Alors, le forum a permis d'ouvrir de véritables dialogues entre les autorités et les investisseurs de la diaspora. Oui, je pense que le forum a ouvert un espace de dialogue réel. Il ne faut pas tout résoudre. On ne pourra pas tout résoudre parce que le forum a duré 3 jours. En 3 jours, on ne pourra pas tout résoudre. Mais le simple fait de mettre les acteurs en présence de permettre aux acteurs de se parler directement est déjà un progrès. Maintenant, l'enjeu est de transformer ce dialogue en mécanisme de collaboration concret et durable.
Alors, cela dit, en renforcer la confiance entre le Mali et ses filles et fils qui sont dans le monde. Alors, selon vous, comment est-ce que cela peut être une réalité.
Ok, la confiance se renforce par des actes. C'est par des actes, pas seulement par des discours. Il faut de la transparence, de la rapidité dans les procédures et la lisibilité des décisions et un suivi réel des engagements. Par exemple, les engagements qui sont pris, il faut mettre des mécanismes en place pour un suivi de cela. Si la diaspora voit que ses préoccupations sont prises au sérieux et que les projets avancent, la confiance s'installera naturellement. Elle viendra tout seul.
Alors, nous allons parler de la troisième séquence, hein, qui est investissement et initiative. Vous y connaissez très bien, oui. Puisque vous êtes chef d'entreprise. Plusieurs projets ont été présentés durant ce forum. Quel projet paraissait plus prometteur selon vous? Vous avez pris part à l'intégralité de cette rencontre. Alors, quel est le projet qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet?
D'accord. Bien, il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés vraiment pendant ce forum-là. Il y avait un espace B2B pour que les gens puissent se présenter leurs projets et défendre leurs projets en face des investisseurs. Et les projets les plus prometteurs, selon moi, sont ceux qui répondent à des besoins réels du pays et qui ont un potentiel de rentabilité clair. Il faut ces deux leviers-là. Il faut que le projet réponde à un besoin réel du pays et que le projet ait une rentabilité claire. Si ces deux conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que le projet puisse prospérer et avancer. Je pense notamment aux projets dans l'agro-industrie, dans l'énergie, le logement, les services numériques, la santé et certains projets de transformation locale. C'est des secteurs qui peuvent à la fois créer de la valeur et avoir un impact fort, social très très fort.
Alors, nous avons parlé du message. Hein. Vous venez au nom du Mali, et Diaspora Mali Invest. Mais aussi, nous allons parler de vos projets, si jamais vous en avez présenté au cours de cette session. Alors, quels sont les projets concrets que vous avez développés et présentés au cours de ces assises?
Oui, Diaspora Mali Invest porte une ambition très très concrète. Il s'agit de structurer l'engagement économique de la diaspora autour des projets utiles. Donc nous avons présenté des projets pour restructurer, pour structurer les projets et les projets de nos porteurs de projets de la diaspora. Nous avons également autour des projets utiles, nous avons et regarder les projets qui sont bancables et qui sont durables. Donc, nous travaillons à mettre en relation les porteurs de projets et les membres de la diaspora, avec l'idée de créer des passerelles d'investissement, d'accompagnement et de co-développement. L'objectif est de passer de l'intention à l'action. Voilà.
Alors, quel secteur offre aujourd'hui les meilleures opportunités d'investissement pour la diaspora? On l'a rappelé plusieurs fois, hein, vous êtes oui. Chef d'entreprise, vous savez comment est-ce que ces choses-là se passent?
Alors, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les secteurs les plus porteurs, c'est l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, le logement, les technologies, la santé, l'éducation et les services à forte valeur ajoutée. Ce sont des domaines où la demande est réelle et où la diaspora peut apporter à la fois des capitaux, du savoir-faire et une vision moderne de la gestion.
Alors, si vous êtes ici, cela montre à suffisance votre motivation à contribuer au développement du Mali. Alors, quel accompagnement attendez-vous des pouvoirs publics pour faciliter ces investissements venant de vous les Maliens de l'étranger?
Alors, nous attendons d'abord un cadre clair, ce qui n'est pas toujours le cas, un cadre clair qui est fixé par les autorités, un cadre stable et prévisible. Il faut aussi des procédures administratives simplifiées. Et comme nous avons demandé, par exemple, l'ouverture d'un guichet unique pour la diaspora, qui va permettre d'avoir des procédures simples et clarifiées, et un accompagnement fiscal et juridique des projets de la diaspora, parce que les projets de la diaspora sont un peu particuliers et ils ont besoin d'un accompagnement juridique et fiscal. Et il faut aussi des interlocuteurs uniques pour les investisseurs de la diaspora, comme j'ai dit. Cela vient à point nommé parce que j'ai remarqué que dans les recommandations, il a été retenu l'ouverture d'un guichet unique pour la diaspora. Donc, et surtout une volonté politique de sécuriser et d'accélérer les projets. Et les projets publics doivent faciliter, mais pas compliquer. Voilà, ils doivent être des facilitateurs, mais pas des retardateurs du projet.
Alors, dans vos propos, j'ai entendu la confiance, établir la confiance entre le Mali et ses fils.
Oui.
Alors, il y a des jeunes entrepreneurs de la diaspora qui hésitent encore à venir investir au pays. Est-ce que, selon vous, ils ont leur place dans cette dynamique qui s'essouffle maintenant? On peut dire que c'est une nouvelle façon de faire les choses. C'est un nouveau départ qui vient d'être lancé avec ce forum qui en est à sa deuxième édition déjà. Alors, est-ce qu'ils ont leur place, selon vous, pour pouvoir investir dans le pays et contribuer à son développement?
Absolument, absolument. Ils doivent avoir une place. Ils doivent avoir une place beaucoup plus importante. Les jeunes de la diaspora apportent de nouvelles idées, une meilleure maîtrise du numérique, vous n'êtes pas sans savoir, et une capacité d'innovation très utile. Il faut leur donner plus de visibilité, plus d'accès au réseau d'investissement et plus d'espace dans les instances de réflexion et de décision pour qu'ils puissent impacter.
Alors cette fois-ci, vous l'avez un peu frôlé, hein, mais nous venons, nous évoquons la séquence des recommandations. Mm-hmm. Alors, quelles sont, selon vous, les recommandations majeures issues de cette deuxième édition?
Alors, les recommandations majeures issues de cette deuxième édition sont les recommandations majeures tournent autour de la structuration des projets de la diaspora, de la création de mécanismes d'investissement adaptés et du renforcement de confiance entre les acteurs et la mise en place d'un meilleur accompagnement des projets. En termes de meilleur accompagnement, il faut noter qu'il y aura dans les recommandations la création des diaspora bonds et la création du guichet unique et la structuration de l'accompagnement des projets de la diaspora. Donc, ce sont des éléments qui sont présents dans les recommandations et que nous avons défendus et proposés, qui ont été heureusement retenus dans les recommandations finales de la diaspora.
Alors, justement, hein, pour accélérer les choses, parmi ces recommandations, lesquelles devraient être mises en œuvre en priorité ?
Alors, d'après moi, la priorité doit aller à trois choses. La mise en place d'un cadre de suivi des recommandations, parce que les recommandations sont très, très importantes et ils traduisent tout ce que nous avons émis, nous avons discuté lors de ce forum-là. Donc, ces recommandations, il faut que les autorités mettent en place un mécanisme de suivi de ces recommandations. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est la simplification des procédures des investisseurs et de la diaspora et la création des mécanismes concrets de sécurisation des investissements. Pour les procédures, il a été retenu la création du guichet unique, ce qui est une très bonne chose. Et on veut que ces guichets uniques soient une réalité très, très rapidement. Et aussi, en dernier lieu, pour la confiance, il faut créer des mécanismes concrets de sécurisation des investissements. Et sans ces trois éléments, il sera difficile d'obtenir un résultat tangible.
Alors, comment éviter que les conclusions de ce forum restent sans suite ? Vous l'avez déjà touché, hein, vous ouais. Parlez de la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, comment éviter cela ?
Alors, il faut un dispositif de suivi clair avec des responsables identifiés, un calendrier précis et des indicateurs de résultats. Chaque recommandation doit être traduite en action, avec des cohérences, des échéances et des comptes rendus réguliers. Sans suivi, les bonnes idées risquent de rester dans des discours.
Alors, au niveau de Diaspora Mali Invest, est-ce que vous attendez jouer un rôle de suivi de ces recommandations ?
Ah oui, justement, Diaspora Mali Invest veut jouer un rôle de veille pour ces recommandations, de propositions et des relais auprès de la diaspora. Alors, nous voulons contribuer au suivi des recommandations, encourager les initiatives concrètes et maintenir la dynamique entre les acteurs. Notre rôle est aussi de faire remonter les préoccupations du terrain pour éviter la déconnexion entre les décisions et la réalité.
Alors, ceci nous amène à attaquer la cinquième séquence qui est les perspectives d'avenir. Comment magasiner la diaspora malienne dans les 5 à 10 prochaines années ? C'est tout ce qui se passe.
Alors, dans les 5 à 10 ans à venir, moi j'imagine la diaspora plus organisée, plus structurée et plus influente dans le développement national. Une diaspora qui ne se contente pas d'accompagner à distance, mais qui investit, entreprend, conseille et participe activement aux politiques de développement. Si les bases sont bien posées aujourd'hui, la diaspora peut devenir un acteur économique majeur dans les années à venir.
Alors justement, que peut-on espérer ? Est-ce qu'on peut espérer une diaspora davantage organisée, structurée et influente dans les politiques publiques ?
Alors, cette influence, elle dépend de pas mal de choses. Absolument, et c'est même une nécessité. La diaspora a le potentiel pour peser davantage, à condition qu'elle soit mieux coordonnée, plus représentée et mieux intégrée dans les aspects de la concertation. Plus elle sera structurée, plus sa voix sera plus forte et plus utile.
Alors, l'avant-dernière question, hein, quel appel souhaitez-vous lancer aux autorités maliennes à l'issue de ce forum ?
Alors, je leur disais de ne pas rester spectateurs. D'ailleurs, ils ne le sont pas parce que la preuve, la première édition et la deuxième édition du forum, le Mali a besoin d'eux, de leurs idées, de leurs ressources et de leur engagement. Mais il faut investir avec méthode, avec des projets solides, des partenaires fiables et une vision de long terme. Ensemble, nous pouvons construire des initiatives utiles et durables pour notre pays.
Alors, si vous devez passer un message aux Maliens de l'extérieur, quel message adresserez-vous aujourd'hui à nos compatriotes vivant à l'étranger qui souhaitent investir ou contribuer au développement national?
Alors, d'abord, moi, je lancerai un appel surtout aux autorités maliennes à l'issue de ce forum. J'appelle les autorités à maintenir ce dialogue avec la diaspora et surtout de traduire les engagements en actions concrètes. Il faut simplifier, sécuriser et accompagner davantage les initiatives des Maliens de l'extérieur. La diaspora est prête à contribuer, mais elle a besoin d'un environnement de confiance et de résultats visibles. Mais je suis très très optimiste parce que, à ce que je vois, le ministère des Maliens de l'extérieur a vraiment, d'après ce que je constate, a déjà s'est engagé, il s'engage dans la bonne voie pour accompagner la diaspora. Elle est déjà à l'écoute et si elle traduit cette écoute en acte posé sur le terrain, je pense qu'on pourra avancer très très rapidement.
Alors, si la dernière question, hein, si vous devez résumer en quelques phrases ce que cette deuxième édition du Forum international de la diaspora représente pour le Mali, que diriez-vous?
Alors, je dirais que cette deuxième édition représente une étape importante vers une diaspora mieux organisée, plus écoutée et davantage mobilisée comme levier concret de développement pour le Mali. Il faut noter déjà, avoir ne serait-ce que les recommandations, il est prévu la création de diaspora bornes, il est prévu la création des guichets uniques pour la diaspora, il est prévu des structures pour structurer et rendre plus bancables les projets de la diaspora. Ne serait-ce que ces quelques points, vraiment, on peut dire que je suis très, très, très optimiste pour la suite. Et je profite de l'occasion pour remercier profondément, très, très clairement, les autorités de la transition, notamment le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, pour l'organisation de cette édition, de cette deuxième édition de la diaspora, sans oublier tous les sponsors et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de ce genre d'événement.
Alors, si vous avez l'habitude de venir ici quand vous venez au Mali, c'était la télé avant. Aujourd'hui, vous êtes à la radio et cette nouvelle émission, vous êtes la première personne à être invitée ici. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire dans un premier temps à nos auditeurs, mais aussi à cette chaîne d'information qui œuvre pour pouvoir informer et éclairer la lanterne des auditeurs et des téléspectateurs maliens?
Alors, d'abord, je dirais un grand merci à Djoliba TV et à l'ensemble de vos collaborateurs pour le travail immense que vous abattez. Et derrière, déjà, et je dirais que, parce que ce que moi j'ai constaté, quand je viens au Mali et quand je viens pour les différents événements pour la diaspora, je passe souvent dans différentes télés et je vois que Djoliba TV porte une diversité, c'est-à-dire vous êtes ouvert à recevoir toutes les opinions, qu'elles soient contraires et qui se contredisent. Vous portez quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire la contradiction et l'objectivité dans les débats. Donc concernant cette première édition, je trouve qu'elle est très très innovante et très très bien. Elle permet comment dirais-je, au public, aux invités, de mieux informer l'opinion nationale et internationale des réalités du terrain. Et je pense que c'est une émission qui colle à la réalité économique et politique de ce moment. On a besoin de ce genre d'émission pour pouvoir faire bouger les lignes, pour pouvoir faire avancer le Mali. Et je vous en remercie très, très profondément.
Alors, monsieur Assiba Touré, merci d'avoir partagé avec nous votre analyse et votre expérience de cette deuxième édition du Forum international de la diaspora. Alors, merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À très bientôt sur un autre numéro de Regards sur l'actualité. Comme je le disais, hein, à la technique, Aboubacar Traoré, Grand B, moi c'est Oumar Kouita. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi à partir de 11h. Nous invitons de 1 à 4 personnes dans cette émission pour vous parler des actualités brûlantes du pays. Bonne suite des programmes sur Joliba FM. À très bientôt.